Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens, mais sans camisole.
En direct du studio 611 et sans tranquillisant, une émission réalisée par Clément Nouguier, assistée de June Loper avec Grégory Wallon à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, surveillé, enfermé, attaché, la dérive sécuritaire de la psychiatrie française. Quand les pratiques de contention et d'isolement se banalisent et que les mesures d'obligation de soins sont en constante augmentation, une autre psychiatrie est possible. Mais ce n'est pas le choix du gouvernement.
Nous ne sommes pas résignés au naufrage de la psychiatrie publique. Nous sommes en colère et déterminés.
Je crois que la forme shadowkienne du mouvement précise ce à partir de quoi nous devons refonder la psychiatrie.
Je voudrais me laisser aller à la vie, quoi. Et ça, on me vole du temps, égal, on me vole ma vie.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court depuis la Guyane d'où je vous parle, qu'un vent de folie soufflerait sur nos contemporains. Alors que chaque jour se précise l'urgence climatique et écologique, ici en Amérique du Sud, les vieux fantômes des conquistadors reviennent tenter les hommes, prêts à tout pour étancher leur soif d'or jaune et d'or noir, à coups de forage offshore et de mines industrielles au cœur de la forêt primaire. Folie extractiviste sur laquelle nous reviendrons la semaine prochaine, mais dont l'acharnement n'est pas sans écho avec le fol entêtement qui frappe aujourd'hui la psychiatrie française. On sait depuis des années comment, à cause du manque de moyens, beaucoup de personnes souffrant de troubles psychiatriques atterrissent en prison, faute de mieux, faute de soins. Nous, Antoine, les appelle à soigner l'hôpital psy autant que ses patients.
Oui, on va rencontrer Mathieu Bellassène, psychiatre en colère et à l'initiative des Trucs, terrain de rassemblement pour l'unité des clubs thérapeutiques et inspiré par la psychothérapie institutionnelle. Notre ami André Robillard sera de la partie.
Vous vous souvenez peut-être de la grève de la faim des personnels de l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, que nous vous avions raconté l'an dernier, quand les soignants en venaient à mettre en danger leur santé pour la santé mentale de leurs patients. Eh bien, ce malaise dans la psychiatrie s'est depuis généralisé, Charlotte. Pas seulement pour les moyens, mais aussi et surtout sur les méthodes. Et beaucoup appellent à un printemps de la psychiatrie, parce qu'il y a urgence.
Banalisation des pratiques de contention et d'isolement, augmentation constante des soins sans consentement, restriction des libertés des patients, la dérive sécuritaire que traverse la psychiatrie française atteste de la crise sans précédent qui frappe l'institution. Selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la France est l'un des pays européens qui enferme le plus pour soigner les troubles psychiatriques. Et c'est une véritable culture de l'enfermement qui s'est développée dans notre pays depuis les années 2000, suite notamment au discours d'un certain Nicolas Sarkozy à Antony et de la loi du 5 juillet 2011 qui en découle. Familles, soignants, patients dénoncent cette dérive sécuritaire et appellent à une psychiatrie plus humaine et plus digne.
Alors, jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court quand la psychiatrie va mal, une histoire de fou.
Troisième thème abordé hier dans l'hémicycle, le traitement des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Les députés ont voté une disposition visant à limiter le placement en chambre d'isolement et la contention.
Le texte prévoit que ces mesures doivent uniquement être appliquées en dernier recours et qu'elles doivent faire l'objet d'une surveillance stricte.
Alors j'appelle la psychose. Est-ce que vous êtes là, Saint-Étienne?
Bonjour. Le collectif La Psychose, il s'est formé suite au passage des CGLPL, c'est les contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté. En janvier 2018, sur notre CHU, ils ont pu constater l'horreur normée et l'horreur protocolisée sur nos urgences, qui ont vu, je cite, donc des conditions d'accueil indignes et des traitements inhumains et dégradants.
Il a été constaté des personnes qui étaient à l'isolement et attachées par les deux mains et les deux pieds pendant des semaines, des mois et certaines même pendant des années.
J'ai l'impression qu'à tout moment, si je ne respecte pas les codes, on peut venir me rattraper. J'espère que ça ne va pas m'arriver.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Qui vont-il ?
Hashtag comme un bruit.
J'ai fait le marché en passant.
Ah, vous avez fait le marché. C'est beau toute cette neige.
J'ai monté. Entrez.
Entrez, bonjour.
Bonjour. Voilà.
Allez-y, venez. Hop là. On a même un marché.
Je l'ai vu parce que je suis à la mairie.
Oui, on a
J'ai marché.
Si j'ai pris ma provision de beurre, j'ai pris 4 kilos. Parce que
ah oui, c'est
il
vrai.
Est bon, puis moins cher.
Installez-vous.
Merci.
Est-ce que vous voulez boire quelque chose avant de commencer? Un café ou...
Bah, je viens un petit café. Si
un petit café?
Ouais, volontiers.
Aussi oui. Michel, t'en bois du café?
Oui. Alors, je suis Michel, un bénévole de l'UNAFAM de la région Rhône-Alpes.
Donc, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles.
Des familles et amis des malades psychiques. Voilà le document que je voulais vous montrer. C'est celui-là. Donc, c'est ce document qui nous a permis de faire notre action, puisque l'UNAFAM a pris position contre l'isolement et la contention globalement.
C'est un communiqué qui date de novembre 2015.
Oui. Et la première visite de contrôle de l'établissement était en novembre 2015.
Donc vous, c'est votre fille hein, qui est atteinte de schizophrénie, c'est ça?
Oui, elle était malade à l'âge de 17 ans. Au début, elle était soignée par psychothérapie. Et puis, les médicaments sont arrivés plus tard. En général, la schizophrénie, c'est une perte au niveau de la réalité. Et puis, le fait d'avoir des hallucinations auditives ou visuelles. Donc, on peut voir une personne qui n'existe pas, par exemple, qui est décédée. Ou on peut avoir aussi des voix intérieures qui peuvent dire à la personne de faire des choses. Et puis, petit à petit, la maladie s'est chronicisée avec des épisodes violents envers le personnel, surtout de l'hôpital. Donc, elle a été mise dans des services au long terme, ce qu'on appelle des services de suite, ici, dans notre département.
Merci.
Merci.
Et donc vous, c'était en juin 2015, vous avez rédigé une lettre au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Mais oui, mais c'était après beaucoup de démarches. Je n'avais pas d'autres possibilités. Donc je lui ai décrit ma situation et puis ce qui se passait. Et puis que je trouvais qu'au bout de 16 mois d'isolement, ma fille devait sortir de la chambre d'isolement en fait.
Votre fille a été placée 16 mois en isolement?
Oui. 16 mois en isolement jusqu'à ce qu'elle soit sortie un mois plus tard.
Comment ils ont justifié
Au début, c'était de la violence de sa part, et puis d'autre part, pour la durée, souvent on me disait qu'elle ne voulait pas en sortir.
Et elle, qu'est-ce qu'elle vous disait?
Elle était fataliste, elle pensait qu'elle méritait l'isolement. Pour moi, c'était difficile, puisque bon, il me semblait que ce que me disaient les soignants était assez aberrant. Et donc,
qu'est-ce voilà. qu'ils vous disaient?
Il me disait que bon, il n'y avait pas d'autre solution et que voilà, son état de santé justifiait l'isolement. Donc j'ai souffert énormément de cette situation.
Mais du coup, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée?
Rien. Le médecin chef ne voulait pas de psychologue, pas d'assistante sociale dans son service, pas d'activité pour les malades. Et donc c'était pratiquement que des cachets et puis contention isolement. C'est-à-dire que la personne est entravée, elle est attachée.
Attachée des quatre membres?
Oui. Elle m'a dit qu'elle avait été contentionnée au début, oui, pendant les 7 mois.
Ça, vous n'aviez pas d'informations, vous informez pas de la manière dont elle était prise en charge?
Déjà, je ne pouvais pas la voir, et puis après, quand j'ai pu la voir par la suite, j'avais jamais accès à sa chambre. Je n'ai pas pu la voir pendant 7 mois. Elle me disait que bon, elle était trop malade ou des choses comme ça. Moi, je me suis aperçu très tardivement de ce qui se passait et puis on avait très peu d'informations. Il y avait une omerta, en fait. C'est vraiment le contrôleur général qui a constaté ce qui se passait. Nous, on n'imaginait pas que c'était à ce point. Il y avait tout un service qui était dédié aux chambres d'isolement. Puis ils se sont aperçus, entre autres, que en plus d'isolement contention, certains malades étaient enfermés dans leur chambre.
Mais à votre avis, comment ça se fait qu'un lieu qui est censé être un lieu de soins puisse en arriver à ce point de recours à des pratiques qui doivent être exceptionnelles et de courte durée?
C'est difficile à analyser. Je pense qu'il y avait des locaux qui étaient vétustes. Il y avait un manque criant de psychiatres. Donc le problème, c'est que les infirmiers étaient les seuls responsables. Et donc ça amenait à des excès parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il y avait des soignants qui étaient dans un système sécuritaire, comme dans pas mal d'hôpitaux, où, à ma foi, on s'occupait au maximum de la sécurité et moins des droits des patients.
Et votre fille, vous, aujourd'hui, elle va mieux depuis
Ça va un peu mieux, quoi. C'est pas mirobolant, mais disons qu'elle est bien soignée.
Vous pensez qu'elle va sortir un jour
J'espère.
C'est la première fois,
Nicolas Sarkozy,
qu'un président de la République rend visite au personnel d'un hôpital psychiatrique.
Discours d'Anthony.
Parce que vous accomplissez chaque jour une œuvre remarquable au service de la société.
Décembre 2008.
Vous vous souvenez tous du meurtre commis il y a quelques semaines à Grenoble par un malade qui avait fugué de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève. Mon devoir, c'est de protéger la société et nos compatriotes. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques. Nous allons d'abord réaliser un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation. Par ailleurs, au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le nécessite. Enfin, nous allons aménager 200 chambres d'isolement. Ces chambres à la sécurité renforcée seront destinées aux patients qui peuvent avoir des accès de violence envers le personnel. Et je souhaite qu'on aille plus loin. Des gens dangereux dans la rue, c'est un scandale. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et bien sûr de votre attention.
J'ai quelque chose à dire sur la psychiatrie. On ne prend pas la parole des proches en compte suffisamment. Parce que dans mon cas, on s'est battu, c'était en 2000, pendant 3 mois, on voyait que notre fils allait très mal. Eh bien non, on n'a pas voulu nous écouter. On n'a pas porté plainte, parce que porter plainte contre le corps médical, c'est toujours très difficile. Mais enfin, mon mari est hospitalisé, il a quand même reçu 5 coups de couteau de chasse. Et voilà où on en est.
Donc vous, vous aviez alerté tout le monde que l'état de votre fils se dégradait. Et
on n'a pas voulu nous écouter. Il faut qu'il arrive un malheur pour qu'on bouge. Et la situation s'est reproduite il y a 18 mois dans notre région. Bien sûr, hein. Une fois que le drame est arrivé, alors là, après, tout le monde se bouge. Mais le drame est arrivé.
Donc on ne mise pas du tout sur la prévention. Par contre, après, on va créer des unités sécurisées pour enfermer les gens à double tour parce que le drame est arrivé.
Voilà, exactement. Moi, c'est ce que je dénonce, parce que ça, je n'ai jamais accepté.
Vous, votre fils, il a, qu'est-ce qu'il a comme maladie ?
La schizophrénie.
Il est toujours à l'hôpital ou...
Ah non, 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 il est sorti en 2007. Et je pense que, comme Michel l'a dit, c'est un problème de moyens. Vous savez, il ne faut pas oublier que la psychiatrie, moi personnellement, je trouve que ça a évolué, mais ça a été une maladie qui fait peur. La maladie psychiatrique en général, on la stabilise. On ne la guérit pas. On se pose beaucoup de questions de savoir. On se remet en cause. Alors, c'est pas simple.
Vous vous appelez comment ?
Daniel.
Vous êtes rencontré à l'UNAFAM ?
Oui, bien sûr. Je suis aussi représentante des usagers, mais suppléante.
Vous, dans le service dans lequel était votre fils, ça se passait pas aussi mal ?
Non, ça se passait pas aussi mal. Mais bon, il y a d'autres services, c'était pas le cas.
Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez appris ce qui se passait à l'intérieur ?
Difficile à croire. Parce que c'est pas une prison, un hôpital, faut faire la différence avec l'hôpital et la prison quand même.
Bon, ma foi, ouais. Bon retour alors.
Merci, hein. Au revoir.
Mon devoir, c'est de protéger la société. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques.
Maman, s'il te plaît, ne m'envoie plus à l'hôpital. Je n'en peux plus, je m'y sens mal. Pas l'hôpital, pas l'hôpital. Là-bas, les gens sont trop bizarres. Quand je pense à eux, je fais des cauchemars. Mentalement, je n'ai pas de retard. Maman, je ne veux plus les voir. Je te jure que je suis plus fou. C'était avant quand j'étais fou. L'autre fois, ils voulaient me taper. Je ne supporte pas l'antipou. Je t'en supplie, les appelle pas. Ils vont me sucer le cerveau. Non, maman, non, ne le fais pas. Je serai. noir et doux comme un agneau. Ils me donnent des coups de trique, ils disent que je l'ai mérité. Ils me bourrent de barbiturique alors que je n'avais rien fait. S'il te plaît, tu sais bien qu'ils vont m'attacher. Maman, je t'en supplie, je ne veux plus y retourner.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
C'est aujourd'hui leur 68e jour de grève. Les personnels de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens sont mobilisés depuis le 15 juin.
Ils ont tenu 14 jours avant d'être évacués vers le CHU de Rouen.
Nouveau soutien pour les perchés de l'hôpital Jeannet du Havre qui campent sur un toit et sous un soleil de plomb depuis 8 jours.
Il y a cette maltraitance des soignés, il y a cette maltraitance des soignants, mais il y a une maltraitance budgétaire.
Ici, il y a 3 infirmiers pour 15 patients. Il en faudrait 9. Et d'après les personnels, il manquerait plus de 40 psychiatres.
Voilà tout ça, on a des cajots, on a des gamelles, des chiens.
Il faut sortir de cette indignité. Et cette visite-là, c'est pas moi qui devrais la mener. C'est la directrice de l'agence régionale de santé. Parce que c'est elle qui prend les décisions.
Dans les couloirs des êtres abandonnés, les yeux ouverts, le corps plié, une jeune fille à garde déambule. Comme d'autres, Héloïse est livrée à elle-même.
Les patients, on s'en occupe pas, ils passent leur temps à attendre. Ils sont de plus en plus attachés pour éviter qu'ils deviennent violents. Et c'est comme ça qu'on faisait au 19e siècle.
Les perchés ne sont pas décidés à descendre de leur toit.
Il y a peu de temps, lors d'une mobilisation, on pouvait lire sur les banderoles « Hôpital de la honte ».
Pour le collectif Pinel en lutte, composé de soignants et de familles, il faut poursuivre la mobilisation à l'échelle nationale.
Nous sommes venus vous parler, appeler, œuvrer pour le printemps de la psychiatrie.
Mardi 22 janvier, il est 11h du matin, on est place de la République à Paris et ce matin il neige beaucoup, mais ça n'a pas empêché quelques centaines de personnes de se retrouver ce matin pour le printemps de la psychiatrie.
À Bourges, à l'Aune, Rennes, Montfavet, Cadillac, Aix, Uzès, Morlaix, Quimper, Caen, Toulouse, Le Havre, Saint-Étienne-du-Rouvray. La liste n'en finit plus. Partout le même constat. Ça ne peut plus durer. C'est le résultat de 30 ans d'attaque tout azimut. Près de 100 000 personnes sont traitées sans leur consentement. Et pas moins de 8% d'entre eux, hospitalisés, sont placés en isolement. Nous avons honte des conditions dans lesquelles nous sommes contraints d'exercer nos métiers.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Alors moi je m'appelle Malika Keshka, je suis infirmière psy.
Sur quel hôpital ?
L'hôpital de Ville-Évrard, à Neuilly-sur-Marne, dans le 93.
Serge Aidé. Je suis retraité maintenant, mais toujours actif.
Alors aujourd'hui, tout le monde est réuni sous la neige ou malgré la neige pour le printemps de la psychiatrie.
Pourquoi aujourd'hui ? Parce que déjà, il y a eu tous nos collègues de Pinel, du Havre, qui ont quand même, et là c'est la première fois, c'est-à-dire venir faire la grève de la faim.
Et c'était à l'hôpital du Rouvray, il y avait une grève de la faim.
Tout à fait. En venir à cette méthode pour alerter les pouvoirs publics, parce qu'actuellement... Par exemple, dans les CMP, quand vous n'allez pas
les
bien...
Les centres médico-psychologiques.
Voilà. Quand vous n'allez pas bien, eh bien, vous allez au CMP et vous demandez un rendez-vous. Aujourd'hui, la réponse qu'on vous donne, c'est « Je ne peux pas vous donner de rendez-vous tout de suite. » Il y a des listes d'attente dans les CMP qui vont jusqu'à un an pour être reçues par une psychologue. Parce qu'on est de moins en moins, il n'y a plus de médecins. La moitié des médecins ne sont pas là parce qu'ils partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Et nous, on est face à une détresse, à une souffrance... On ne peut plus répondre. Et ne pas répondre à une demande de détresse, c'est terrible. Moi, je peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Et les gens ne se manifestent pas. Ils repartent chez eux. Et on sait tout à fait qu'après, ça peut être une accumulation de souffrance et ça peut déborder. Et donc là, ça va être... les gens vont arriver à l'hôpital, aux urgences, dans un état pas possible, d'angoisse massive, d'une décompensation.
Moi, j'ai commencé la psychiatrie il y a 14 ans. À une époque où quand quelqu'un était en souffrance, on prenait du temps, on parlait avec lui, on l'apaisait. Aujourd'hui, on n'est plus assez nombreux dans les services, donc quand on est avec eux, on les met en chambre, on les contentionne et on ne s'interroge plus.
Donc aujourd'hui, l'hôpital public ne peut plus répondre à la demande ?
Non. l'hôpital public ne peut plus et ne veut pas répondre à la demande. C'est-à-dire qu'on entend Mme Buzyn nous dire « il faut nous organiser ». Mais nous organiser avec quoi? Quels moyens?
Et en plus, il y a ce qui se passe pour l'hospitalisation. Les conditions pour les patients sont de plus en plus dramatiques. J'ai bossé pendant 40 ans, je n'ai jamais attaché un patient. Là, maintenant, la contention est devenue quelque chose de totalement courant dans les services et c'est quelque chose qu'on ne pratiquait absolument pas, de la même façon que l'utilisation presque habituelle des chambres d'isolement, qui était assez rare et qui était justifiée. Maintenant, elle devient presque systématique et... C'est aussi la conséquence, effectivement, d'une prise en charge tardive et d'un manque de personnel, de formation, de...
Et vous, ça vous arrive aussi dans l'hôpital dans lequel vous êtes d'avoir recours à la contention, à l'isolement de manière pas forcément justifiée?
Alors, c'est vrai que là où on est, on essaie de travailler ça. Mais malgré tout, il est vrai que moi, je vois mes collègues, mes jeunes collègues, donc à l'hôpital, quoi. Quand vous n'êtes pas nombreux, comment répondre à quelqu'un, par exemple, qui va très mal, qui est très délirant, etc., où il faut contenir d'une façon humaine, être là? Mais si vous n'avez pas les moyens, c'est très difficile de le faire. Donc, effectivement, ça peut être utilisé d'une façon qui n'est pas justifiée au niveau thérapeutique. Mais quand même, aujourd'hui, il faut dire que la contention, elle ne peut être faite qu'au dernier recours. Hein. C'est en dernier recours.
Il y a une loi qui a été promulguée.
Bien sûr, il y a une loi qui est promulguée par rapport à ça, en dernier recours.
Sauf que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, dit que finalement la loi n'est pas tellement respectée.
Non, elle est contournée,
Oui. Mais il faut faire attention de ne pas jeter la pierre justement aux collègues, aux soignants. C'est que vous êtes face devant une réalité où à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Ils sont dans un état psychologique, moi je les entends, je les écoute, hein. Il y a vraiment une distorsion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une culpabilité par rapport à ce qu'elles font. Elles ont un diplôme et elles sont amenées des fois à attacher quelqu'un. On se dit, mais attendez, il y a du non-sens, quoi. On peut, oui, attacher quelqu'un, ça peut arriver, non pas parce qu'on a envie de l'attacher par plaisir, mais parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour répondre à ce qui se passe pour l'ensemble des patients dans l'unité. Il faut faire des choix, et ça c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible.
Pinel, non, pas encore là. Alors, les perchés du Havre, est-ce qu'ils sont arrivés? Non, oui, non, oui. Allez!
Bonjour à tous. En juin 2018, nous, salariés de l'hôpital Pierre Janet au Havre, avons décidé d'occuper H24, le toit des urgences. Où en est-on aujourd'hui? L'engorgement des urgences est toujours réel. Des patients y dorment à nouveau dans la salle télé sur des fauteuils ou sur des matelas à même le sol. Plus de personnel en nombre suffisant pour contenir l'angoisse des patients à laquelle il devient plus rapide et donc plus économique de répondre par la contention ou l'enfermement dans des chambres d'isolement. Des chambres de soins intensifs, c'est quand même beaucoup plus politiquement correct. Une maltraitance institutionnelle quasi quotidienne. Et pourtant, au Havre comme ailleurs, des voix se sont élevées pour refuser cette spirale infernale.
Pinel, vous êtes où? Ils sont pas encore arrivés? Bon. Il y a la neige et tout, donc forcément. La suite alors?
Bonjour. Je prends le micro 30 secondes, on a fait 300 bornes sur la neige pour vous dire qu'on travaille dans un CHU. Nous n'avons rien, plus rien. À peine 2 à 3 infirmiers pour 27 patients. On crève, les patients souffrent. Nous sommes maltraitants pour nos patients. J'ai honte. Madame Buzyn, on est là. On est là.
Nous, on soigne des gens, pas des troubles. Alors pour conclure, nique les projets innovants de l'ARS, Agence Régionale de Souffrance.
Tous les signaux sont au rouge. Les psys sont venus dire aujourd'hui qu'ils n'étaient pas des gardiens de prison, que leur rôle est d'accueillir la souffrance psychique. Sous les flocons, demain, le printemps de la psychiatrie.
Bonjour.
Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je dirais que lors de chaque visite, nous constatons des dysfonctionnements en matière de droits fondamentaux et de liberté, c'est-à-dire des personnes qui sont hospitalisées sans consentement et qui ne peuvent absolument pas sortir souvent de leur chambre sans raison thérapeutique, des personnes qui font l'objet d'une banalisation des pratiques d'isolement et de contention physique, ça nous le rencontrons quand même très régulièrement. Et puis, à deux occasions, nous avons repéré opérer des situations alors carrément hors normes en termes de dysfonctionnement, là où la banalisation justement de ces pratiques d'isolement et de contention atteignait des seuils absolument incroyables, comme par exemple des personnes isolées et attachées pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, je l'expliquerai par deux choses. Il y a une question de moyens, mais j'insiste toujours beaucoup pour dire que ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est beaucoup aussi une question de culture d'établissement. Et ce qui est frappant dans les hôpitaux psychiatriques, c'est que d'un service à l'autre, et comme je le dis souvent, même parfois d'un étage à l'autre, les pratiques des médecins sont différentes. On a supprimé il y a une vingtaine d'années le diplôme spécifique d'infirmier psychiatrique. Je pense que ça a été une erreur. Et par ailleurs, il y a des hôpitaux où les conditions d'accueil, notamment en chambre d'isolement, sont absolument indignes. Encore dans le rapport annuel de 2018 que nous allons publier en 2019, eh bien, nous avons constaté qu'il y a encore des chambres d'isolement avec des seaux hygiéniques. Donc là, on se retrouve quand même dans une psychiatrie quasi du Moyen-Âge.
Vous parlez aussi d'une culture de l'enfermement. Oui. En France.
Il y a une culture de la sécurité qui s'est développée dans notre pays à partir des années 2004-2008. Il y a eu le fameux discours qu'on appelle discours d'Anthony de Nicolas Sarkozy et qui fait que finalement tout ce qui est de l'ordre un peu de la déviance, qu'elle soit une déviance délinquante ou une déviance psychiatrique, eh bien les réponses qu'on y apporte sont de plus en plus des réponses en matière de sécurité et non plus en matière de prévention. Et dans le secteur de la psychiatrie, c'est particulièrement frappant parce que si on regarde derrière nous, dans les années, disons, 60-70, a été instauré ce qu'on a appelé la psychiatrie institutionnelle. On était dans une mouvance de ne plus enfermer et trouver toutes les autres solutions que l'enfermement. Et malheureusement, tout ça s'est perdu en France, parce que dans d'autres pays, ça ne s'est pas perdu, mais en France, ça s'est perdu au profit d'une logique d'enfermement de plus en plus grande, et c'est ça qui nous inquiète. Et ça, je pense que c'est notamment parce que on est de plus en plus dans notre société dans une logique de peur de l'autre, de peur de celui qui est différent, et donc peu ou prou de volonté de cacher finalement ces personnes qui ne correspondent pas d'une façon ou d'une autre à la norme.
Il y a comme des ombres qui coulent devant mes yeux. Sérieux, n'empêche, j'ai vu chialer mes vieux. Je sais très bien, j'ai l'air un peu bizarre. Je suis pas comme ces enfants qui jouent au square. Docteur, il dit. C'est pas trop tard. N'empêche qu'il dit aussi que j'ai du retard. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais m'envoler dans les sapins. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais tuer encore.
Comme un bruit qui court.
Nous voici arrivés dans une petite ville du sud de la France et on va aller rencontrer Pascal qui vient de sortir de l'hôpital psychiatrique il y a à peine une semaine et qui est soumise à un programme de soins sans consentement, c'est-à-dire qu'elle a l'obligation de se faire soigner et de suivre tout un programme, même en dehors des murs de l'hôpital. Ça fait partie d'une des mesures qui a été instaurée par la loi 2011.
Nous allons d'abord instaurer une obligation de soins en milieu psychiatrique. De même qu'il existe l'hospitalisation sans consentement, il faut qu'il y ait des soins ambulatoires sans consentement.
On arrive devant une petite maison rose avec un toit en tuiles, un très grand cyprès devant. Bonjour. Oui, bonjour.
Entrez, je vous en prie.
Merci.
Alors vous, vous connaissez votre métier, moi je connais ma maison. Si vous avez besoin de toilettes, c'est là. Là, c'est ma chambre.
D'accord.
Et des dessins que j'ai faits. Alors, on ne va pas perdre de temps. Ça, c'est essentiellement les livres en français, les dictionnaires de russe. Et puis, à l'étage, j'ai la bibliothèque en russe. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je parle toujours bien russe. Voilà, je le sais.
Vous parlez russe ?
Oui, je l'ai appris. J'ai fait mes études de slavistique à la Sorbonne, dans le Grand Palais. Je suis née en 55 et en 77, j'avais l'agrégation, j'étais première. Et en 75, j'ai fait, j'ai fait trois licences, la maîtrise et le CAPES la même année, quoi. Voilà.
Vous faisiez quoi ?
J'étais professeure de russe au lycée Mistral d'Avignon. Bon, on se demande pourquoi je traîne dans les HP et dans les lieux de soins psy, parce que j'ai rencontré la désaffection dès la naissance. Je sais pas, on dit pas à son enfant, si ta sœur Hélène avait vécu, tu ne serais pas née, tu n'es qu'une raclure de bidet. Avoir un enfant unique, c'est avoir un chien de luxe. Bon, employant des mots simples, j'ai pas eu de chance. J'ai été internée de façon abusive entre janvier 98 et le 11 décembre 2001. Et j'ai l'impression que c'est un combat de même ampleur que je dois reprendre. Alors que bon, vous voyez, je peux évoluer dans ma maison, j'ai pas de boulet au pied, j'ai pas de chaîne, sauf des chaînes horaires. Et j'ai quand même maintenant 63 ans, je voudrais me laisser aller à la vie, quoi. Et ça, on me vole du temps, égal, on me vole ma vie. Et c'est la loi de 2011, l'obligation de soins, et voilà. C'est une autre façon de surveiller la personne. Ils ne font que coffrer des gens dans des petites boîtes ou des plus grandes boîtes. Mais il n'y a pas de semi-liberté, ça c'est clair. C'est la liberté totale, ou alors, dire franchement, on vous garde jusqu'à ce que vous soyez complètement apte à vivre. Sauf que c'est au contact du réel que se recréent les réflexes de vie, ou pas. Alors, je ronge mon frein, quoi. Bon. Alors voilà, on va regarder ce que...
Alors déjà, là, vous, Pascal, vous êtes sortie de l'hôpital psychiatrique il y a une semaine, tout juste.
Oui, le mardi 22 janvier.
Et donc vous y étiez restée 2 mois ?
Oui, à peu près 2 mois.
Alors... Et là, vous étiez rentrée, en fait, suite à une tentative de suicide.
Oui, il y a eu un marasme qui s'est installé en moi. Bon, ben voilà, la roue a retourné. J'ai pas eu de traitement de 2001 à 2018. J'ai jamais attenté à mes jours en entraînant qui que ce soit, quoi. Ou en utilisant des méthodes qui auraient pu faire exploser une maison. Donc voilà la lettre que j'avais laissée le samedi 15 décembre. Il est 10h10. Je viens d'avaler, pour me suicider, plusieurs boîtes de Valium, des Prazepam, 2 boîtes, et 2 boîtes de Sertaline et Galzoloft avec de l'eau. Car je n'avais plus aucune raison ou espoir de penser que je sortirais de ma solitude monstrueuse. J'ai assez souffert, j'espère mourir sans qu'on me fasse survivre. J'ai une fille, 35 ans, qui m'a niée et abandonnée il y a environ 18 ans. Je vous sors du garage les documents bancaires, ils seront sur la table de la salle à manger, faits pour ce que de droit, mon nom, ma date de naissance, fille unique, testament joint. Voilà. Ça dit ce qui arrive à d'autres personnes. Hein, la solitude, l'abandon. Donc ça tue aussi, quoi, merde.
Encore. Il faut lui donner ses calmants.
Je cherche le texte.
C'est ça, alors là, le papier. C'est ça. Obligation.
Ah, c'est celui que j'ai reçu ce midi. Alors, sur place, on m'a demandé de signer des papiers, ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement. Là, le sens de sans consentement, c'est qu'au moment où on a commencé des soins pour moi, j'étais inconsciente, j'avais avalé beaucoup de médicaments. Mais par la suite, je suis consentante aux soins. Or, il y a toujours cette notion ambiguë, quoi.
Mais parce que là, en fait, ce qui change, c'est que vous étiez à l'hôpital, donc vous étiez soignée, mais là, vous êtes sortie.
Avec un tel emploi du temps à l'hôpital de jour. Attendez. Alors, j'ai reçu.
Celle-là, c'est décision de maintien de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Donc,
ça veut dire. Elle a reconnu la psychiatre, a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Madame Bidule lui permet la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète définie par le programme de soins 6 juin. Ça me prend le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi.
Qu'est-ce que vous avez pour obligation de faire ces jours-là?
Alors, rien. C'est-à-dire être dans le rien, quoi. Faire du tachisme sur des bouts de papier blanc géant.
C'est quoi le tachisme?
Des taches de peinture sur les feuilles sur la table. J'ose le dire, c'est très chiant. J'aime pas perdre mon temps parce que c'est perdre ma vie. Chorale, c'est de la merde. Je précise que j'étais quand même alto 1, alto 2 au conservatoire régional d'Avignon et que je chantais pas mal. Mais là, il n'y avait rien qui sortait. Hein.
C'était pas bien, alors?
C'est nul, c'est du Bruel, du Sardou. C'était du surigu faux ou du... C'est prétexte, voilà, c'est des saupoudrages. Vendredi, j'ai gym à 9h30 et ça s'arrête, cette bluette, à 12h30. Ça ne veut pas dire qu'on marche 3 heures, ça veut dire qu'on va faire un tour d'une vingtaine de minutes. Et puis après, on sera, alors les pauvres patients, en attente, en gésine, dans une pièce propre, hein, bien sûr, et les infirmières ailleurs. Puis on met la table, on attend que les repas de Montfavet arrivent dans des barquettes avec des opercules plastiques.
Voilà. Ça veut dire que le lundi matin, vous êtes bloqué, le mardi après-midi, vous êtes bloqué.
Pour le moment, si c'est reconduit comme ça, ça fait 15 heures de présence là-bas par semaine. Exactement le service d'un agrégé, quoi. Sauf que là, ça vous désagrège. Faire la potiche, j'ai du mal. Ça me navre, au sens où le verbe navrer, c'est transpercer le cœur, quoi. Bon. Alors, je vous donne la première semaine où je suis sortie le 22 dépincée. Elle ne vous laisse pas beaucoup de temps. Revenue en VSL à mon domicile et j'ai obligation d'y être dernier cara à 17h45, qui est l'heure où le porteur de médicaments vient me délivrer ma dose de cachet que je dois gober devant lui à 17h45, ce qui est considéré comme l'heure du dîner. Et à 7h le matin, arrive un autre ou le même.
Bon. Donc vous êtes obligé d'être chez vous tous les jours à 17h45.
Exactement, et samedi et dimanche compris. Dimanche, je me suis évadée au Sainte-Marie-de-la-Mer toute seule. Mais comme il fallait être de retour pour le fameux 17h45, j'avais qu'une heure 10 à passer au Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, voir un peu la nature et pas toujours... Moi, c'est pas me plaindre, je veux me dégager de la mesure. Par des moyens légaux. Et il faudra peut-être être un peu patiente, mais j'en peux plus. Parce qu'à cause de ces histoires, j'ai perdu de l'argent pour un voyage en Russie, où j'étais pas retournée depuis 30 ans, et une grosse somme pour le Ponant. Je devais retourner à Ushuaïa, mais en avion puis bateau.
Donc vous ne pouvez pas faire vos voyages à cause de ces mesures.
Voilà, voilà. Il y a eu une espèce d'explication foireuse, disant que oui, mais ça pouvait être négocié pour quelques jours... Moi, je veux l'ampleur, hein, la liberté totale et puis merde.
Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de beau pour l'oiseau. Parfois, l'oiseau arrive vite. Mais il peut aussi mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Quand l'oiseau arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré... Fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Attendre que l'oiseau se décide à chanter. S'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Je suis restée presque 3 ans dans cet hôpital. C'est un univers dur. Il y a un musée à Montfavet, hein, le musée de l'histoire de l'asile. C'est un joli petit musée avec des choses instructives, mais franchement, par d'autres moyens, on fait la même chose. C'est pas avec des pèlerines qu'on frappe les plombés, qu'on frappe les malades. C'est pas des chaussures en fer. C'est pas ça. Mais c'est du même ordre, quoi.
C'est-à-dire ?
C'est détruire. C'est détruire lentement. Il peut y avoir des gens réellement fous. C'est rare, hein. Enfin, il y en a. C'est pas une raison pour exercer des brutalités, enfin, inventer ces espèces d'objets de contention. Dans la cour qui était gravillonnée, il y avait des êtres humains, soit avec des casques de protection, qui n'avaient pas le stade langagier, à qui il manquait, il n'était pas fini pour parler clairement. Il me disait qu'on est arrivé au point D, c'est là que j'allais aller. Donc je voyais des personnes enfin, qui s'aspergeaient de cailloux ou qui étaient assises comme des oiseaux repliés sur eux-mêmes sous les troènes. Je suis rentrée dans le hall et j'ai dit, mais où elle est la chambre? C'est pas là. Parce que quand je voyais derrière le grillage, c'est que personne, vous voyez que j'ai presque la tendance à dire créature, quoi. Je me disais que si j'allais là, combien de temps je mettrais pour atteindre ma mort psychique ou la folie pure. Et j'ai la sensation qu'on peut me saisir à n'importe quel moment. Vous voyez ces espèces de gros doigts crochus chez les ferrailleurs qui soulèvent des automobiles pour les lâcher, par les empiler. La mesure là, que je subis, là, j'ai l'impression qu'à tout moment, si je ne respecte pas les codes, on peut venir me rattraper. J'espère que ça ne va pas m'arriver. Je vais m'arranger à ce qu'il n'y ait pas matière à. Je voudrais me laisser aller à la vie, quoi.
Folle de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage, folle de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur, cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie, ou sur quelques loques je gis. Si je sors, c'est pour quelques pas, l'espace horrible fond sur moi, comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour.
Là, d'ailleurs, vous avez écrit au défenseur des droits.
Je vais peut-être pas imprimer, si c'est bleu, voilà, bleu et blanc. Voilà. Donc, ma demande a été enregistrée en date du 25 sous la référence bidule et sera traitée dans les meilleurs délais. Je m'appelle Pascal, née le 10 mars 55 à Argenteuil. J'ai été première à l'agrégation de Russe en 77. Je me trouve, guillemets, engluée par les mesures prises par l'hôpital psychiatrique d'Avignon situé à Montfavet. J'estime que l'on bafoue mes droits par prise de mesures très contraignantes, coercitives. Je me sens comme en, guillemets, liberté conditionnelle avec une assignation à résidence. Je vous prie de me contacter, la situation devient oppressante, pleine de menaces dites ou non dites. J'ai été 25 ans ETI, expert traductrice, assermentée près la cour d'appel de Nîmes, en russe, je n'ai pas d'appui, une décision numéro bidule de maintien des soins psychiatriques pour une durée de 1 mois, mais renouvelable. Il y a bien sûr une ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement. J'ai fait une TS le 15-11, d'autres précédaient, mais rien depuis 2001. Mon favet a détruit ma vie professionnelle, ça c'est vrai. J'ai lu tout mon dossier, on dirait que c'est comité de salut public révolutionnaire, il y a des fiches blanches, des fiches roses. C'est noté toujours à charge, jamais à décharge. J'ai téléphoné en disant c'est Madame, elle, je vous signale qu'à cause de vous, j'ai perdu mon travail et le droit à travailler, que je suis littéralement virée. C'est un état dans l'état. Et déjà, notre état est en mauvais état. Alors, un état dur, cruel et globalement très dysfonctionnant à l'intérieur d'un État qui lui-même perd les pédales, à une époque où tout va, excusez-moi l'expression, à volo, oui, je vais aller dire quelque chose de grossier. Bon, donc pour le moment, revenons au défenseur des droits. J'ai jamais contacté mon favet à détruire ma vie professionnelle. Je crains pour ma liberté et ce que je dis est vrai. Contactez-moi au plus vite, s'il vous plaît. Bon, pour le moment, j'ai eu aucun écho, mais ce que je suis en train de faire, c'est un peu planter des protections autour de moi.
Pourquoi vous avez écrit alors au défenseur des droits, précisément ?
Parce que j'ai droit à la liberté. J'ai le droit de recourir à mes médecins privés. Je défends ça. J'ai le droit à décider, si je me couche à 5h du matin, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin, bouffer les médicaments à 17h45, je voudrais qu'il m'explique pourquoi, quoi.
Après, vous ne pouvez plus rien faire.
Je ne peux rien faire. Franchement, qu'on me laisse tranquille.
Donc vous n'êtes pas contre les soins, mais vous êtes contre.
Je suis contre la mainmise, le maintien sous cloche. Moi, je prends l'HDJ où je suis contrainte d'aller.
L'hôpital de jour.
L'hôpital de jour. Pour une de ces ce fonctionnement panoptique à distance, séparé de la structure mère, ou père, quoi, mon favet. Clairement, il y a beaucoup moins de moyens financiers, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de psychothérapie là-dedans. On retourne exactement aux structures du 19e siècle, au lieu asilaire, d'où, avec un système de fonctionnement comme un escargot, puis après ça devient un cercle fermé, quoi. Ça modifie ma vie à jamais. À jamais. C'est une expérience de camp, je peux employer le mot. En aucun cas, je considère que c'est la même chose qu'à Auschwitz. En aucun cas. Toute proportion gardée. Mais c'est une mort lente avec des tourments, des mesures de dévalorisation de la personne. C'est incitatif à se balancer. Hein. Il y a des tas de souvenirs qui reviennent et qui sont, j'espère ne plus jamais retourner en hospitalisation complète ou même partielle. Je ne leur ferai pas le cadeau de ma vie, ça c'est sûr.
Un grand merci à tous et à toutes. Et même si les dernières annonces du gouvernement ne montrent aucune volonté de changer de voie, une autre psychiatrie est possible, Antoine.
Oui, et il est même question de commencer par soigner l'hôpital. Avec Mathieu Bellassène, psychiatre en colère, et mobilisé mégaphone en main ce mardi 22 janvier, place de la République, pour lancer le printemps de la psychiatrie. Il est aussi à l'initiative des TRUC, terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques et des FEDEX, fédérations des exceptions dans le champ psy. Des pratiques inspirées par la psychothérapie institutionnelle, fondée en 1960 par François Tosquelles et Jean Horry, notre cher André Robillard, et donc de la partie aussi.
Comme un bruit qui court.
Mathieu, si tu nous entends. Ah ben voilà.
Alors Mathieu Bellassène, je suis psychiatre en secteur public et je suis membre du TRUC, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs. Et puis de la FEDEX aussi, la Fédération des Exceptions.
Je crois que la forme shadowkienne du mouvement précise ce à partir de quoi nous devons refonder la psychiatrie.
En fait, ce qui se joue en ce moment, c'est une révolte par rapport à une honte et une indignité. Une honte qui est celle des conditions d'accueil et de soins des patients. Et puis l'indignité des conditions de travail dans lesquelles sont les professionnels. Mais je crois qu'au-delà de la question des moyens, ce qui a fait vraiment révélateur, c'est que les professionnels se sont soulevés, révoltés, contre l'absence de sens au travail et à un accueil, une hospitalité digne de ce nom. Et je crois que c'est ça vraiment qui est absolument nouveau dans le mouvement qu'on connaît actuellement et qui est parti donc de soignants à l'hôpital public, qui est le lieu de cristallisation des plus grandes difficultés, à la fois des plus grandes difficultés pour les patients, parce que en général l'hôpital public c'est devenu un lieu de plus en plus de relégation et de contraintes, de traitement de la contrainte, c'est-à-dire que les gens sont hospitalisés sous contrainte à l'hôpital, ils ne sont pas hospitalisés sous contrainte dans d'autres lieux, ou alors c'est très très rare. Et d'autre part, c'est le lieu où les conditions de travail sont les plus difficiles, puisque le New Public Management est là depuis des années maintenant, c'est-à-dire qu'il a transformé l'hôpital en entreprise, et a réduit de plus en plus le temps qu'on peut consacrer aux gens. Et je crois que voilà, la lutte aussi qui a lieu en ce moment, c'est une lutte pour instituer un autre temps, c'est-à-dire prendre autrement du temps avec les gens, et le temps, c'est pas juste la cadence des néolibéraux. Et je crois que c'est là où il faut être assez net et assez clair sur l'impact de la rationalité néolibérale et du néolibéralisme en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas juste privatiser, pour faire du fric, mais c'est aussi transformer les âmes, c'est-à-dire les psychés des uns des autres, pour transformer le sens de ce que c'est que faire société. C'est-à-dire que plutôt que être ensemble, ça va être de comment on va pouvoir être concurrents les uns des autres. Et ça, c'est dans tous nos espaces de vie. Donc, plus que la privatisation, c'est vraiment des transformations et subjectives et sociétales. Et je crois que c'est là où la psychiatrie est à la fois la pierre angulaire de tout ça. Pourquoi ? Parce que on a basculé de la psychiatrie à la santé mentale depuis une vingtaine d'années. Et la santé mentale, c'est devenu une notion qui, à la fois, on dit voilà, la santé mentale, c'est comment toute personne peut s'intéresser à ce qui se passe dans sa propre vie, comment toute personne peut avoir des difficultés, etc. Mais la santé mentale, c'est aussi un enjeu économique, et au-delà de ça, c'est un enjeu néolibéral. Pourquoi ? Je répète souvent cette phrase, mais en 2005, l'Union européenne écrit le livre vert de l'Union européenne qui s'appelle « Améliorer la santé mentale de la population », un objectif stratégique pour l'Union européenne. C'est au moment de la stratégie de Lisbonne, on a voté non, mais c'était oui quand même, bon, etc. Et en fait, la santé mentale devient un point d'appui nouveau, on peut dire, pour le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'avec la santé mentale, on va pouvoir rentrer plus facilement dans les âmes pour transformer les âmes de l'intérieur. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la psychiatrie, elle est à la croisée des souffrances individuelles et de comment on transforme ces souffrances individuelles, mais elle est aussi à la croisée de ce qui fait société. Et est-ce qu'on veut une société qui va dans un sens juste de rentabilité et d'utilitarisme, c'est-à-dire où on va mesurer l'importance d'une personne à son utilité sociale, ou est-ce que la société, c'est on fait avec les gens tels qu'ils sont, et qu'ils soient utiles, qu'ils ne soient pas utiles, c'est poser le problème d'une mauvaise façon. On n'a pas à être utile ou pas, parce que à partir du moment où il y a des utiles et des inutiles, le sort réservé aux inutiles est en général trouble, voire catastrophique.
Ça y est, la colonne Robillard s'est mise en route.
Ouais, André Robillard, ouais. Je suis né le 27 octobre 1931. Ouais. Et mon père, il est né le 31 décembre 1908, ma mère le 29 mars 1910. Ma sœur le 3 janvier 1935. Est-ce que je connaissais par cœur ?
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Alors André, oui. Aujourd'hui vous appelez à prendre les armes.
À prendre les armes aujourd'hui. Les armes. Tout le monde va prendre un fusil.
C'est quoi ces fusils ?
Eh bien les fusils, c'est les armes de fabrication. C'est machin là, depuis mars 64 j'ai commencé moi. Et ça n'a jamais bougé, c'est inoffensif.
Et c'est pour tuer la misère ou pas ?
Tuer la misère, oui. Pas tout, mais un petit peu, mais j'en ai laissé un peu de la misère. Mais pas trop, hein, parce qu'il y en avait trop, je me suis embarrassé avec ça.
Des centaines de personnes en souffrance sont laissées pour compte, à la rue. C'est le résultat de 30 ans d'attaque tout azimut.
Et maintenant, c'est un nouveau président, ben, qu'est-ce qui va se passer quand il va être 5 ans au pouvoir ?
C'est un fusil rapide, signé André Robillard. Hein, c'est
depuis 64, et ben, les gens y ont pensé, et les armes, ils sont toujours là. La misère, des fois, elle est partout. Hein. Il arrive que dans notre jeunesse, on a eu un petit peu de misère, vous savez, mais dans la vie qu'on a commencé, des fois des bricoles comme ça, on a été un peu en coincé avec ça. Puis d'un seul coup, la vie a changé. Et puis hop, mars 64. Hein. Et c'est M. Paul Renard, un spichot, il a envoyé ça dans sa deux chevaux. Il était spichot au centre hospitalier à Fleury-Aubrin. Et bien, il a reconnu mes fusils. Hein, il les a emmenés dans sa deux chevaux. Je ne le savais pas. Et puis il amène ça à Jean-Louis Fédo, à rue des Sèvres, 51 rue de Verneuil. Puis d'un seul coup, il amène ça au musée de l'Arbouille, dis donc. Puis après, d'un seul coup, deux ans après, je vois une des cartes postales marquée à mon nom. Robillard André, mars 64. Oh, dis donc.
Avec un fusil.
Oui, j'ai été surpris, là. Je ne pensais pas à ça, moi. C'est incroyable. Puis maintenant, ça y est, je suis libéré parce que tout le monde me connaît. Voilà. C'est incroyable, hein.
À l'hôpital maintenant, et à l'hôpital psychiatrique, on ne s'occupe plus de la vie quotidienne, c'est pas scientifique, il faut aller vite. En plus, les patients risqueraient de prendre du plaisir à être à l'hôpital, donc il ne faut pas faire d'activité dans les hôpitaux, etc. C'est ce qu'on entend dans de nombreux endroits, pas tous. Hein. Là où je travaille, on peut encore faire correctement.
Ça veut dire, Mathieu Bellassène, qu'aujourd'hui, André Robillard ne ferait pas carrière, quoi. Lui qui a eu tout un parcours en hôpital psychiatrique, mu par la psychothérapie institutionnelle, c'est ça ?
Alors, oui. Alors, moi, je me réfère pas mal à la psychothérapie institutionnelle. Alors, c'est quoi cette affaire-là ? C'est juste de se dire que pour soigner les personnes qui viennent à l'hôpital du fait de problèmes psychiques importants, la première marche, c'est soigner l'hôpital lui-même. Pourquoi ? Parce que l'hôpital est source d'aliénation. Enfin, il crée un environnement disciplinaire, c'est-à-dire où les gens vont arriver, il va y avoir un certain nombre de contraintes qui vont s'imposer à eux, un certain nombre d'arbitraires, voire de maltraitance. Et la question, c'est comment on va soigner l'hôpital de cet arbitraire, de ce disciplinaire, pour en faire vraiment un lieu de soins. Et donc, le premier mouvement pour soigner des patients, c'est aussi de soigner l'hôpital. Mais alors attention, quand je dis l'hôpital, c'est l'hôpital dans son sens large. C'est pas juste l'hôpital, ses murs. Ça peut être aussi des centres de jour, ça peut être des structures qu'il y a en ville, en ambulatoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que André Robillard, sa création, elle a émergé de ce qu'on appelle l'asile. Donc, est-ce qu'il y aurait, dans la forme actuelle, un Robillard ? Ça, j'en sais rien. Par contre, il y a à soutenir les formes de créativité et d'émergence où qu'on soit dans ces lieux. C'est-à-dire qu'une bonne partie des soins psychiatriques, c'est de relier les gens à la société. Et de les relier de quelle manière ? De les relier à leur famille, à leur entourage, de les relier au monde, de les relier à ce qui fait qu'on est un citoyen dans une démocratie. De les relier aussi à ce qui fait la créativité. Et en fait, toutes ces formes de créativité, d'art, qui se fondent à partir de la maladie mentale, de la folie, tout ce que vous voulez, il s'agit de les soutenir et pas de les normaliser. Et je crois que c'est ça le côté absolument terrible du moment, terrible en termes d'hygiénisme et en termes de normalisation, c'est qu'on demande aux usagers, aux patients, on les appelle comme on veut, on leur demande de s'adapter avant même qu'on les rencontre. C'est-à-dire que là où nous, un certain nombre de professionnels, de patients, de familles, etc., on essaye de fonder les dispositifs à partir de ce qu'ont besoin les gens, c'est plus ça qui est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est fonder des dispositifs à partir de ce qu'on pense que les gens ont besoin pour répondre au cadre imposé qu'on a dans la tête avant même de les rencontrer.
C'était comme un bruit qui court. Pour tout savoir sur les trucs, le blog de Mathieu Bellassène sur Mediapart, une émission de Là-bas si j'y suis aussi à réécouter en podcast. Hommage à André Robillard, la célébration des fêlés, c'était en octobre 2012 et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.